Je vous demande de vous arrêter.
D'un coup, vous dérapez dans la fureur.
Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Bienvenue au débat de...
Merde !
Qu'est-ce qui lui arrive ?
Salut Jeff.
Salut Babou.
Wouh ! Ça y est, c'est le retour, on est de retour après le confinement.
On est déconfiné et on est de retour et ça fait du bien.
Ouais, et je tiens à dire que Jeff, dès son entrée dans mon appartement, n'a absolument pas respecté la distanciation sociale.
Je tiens à dire que Babou m'a refusé un câlin alors que ça faisait 3 mois qu'on s'était pas vu.
Je te prends un câlin quand on aura un vaccin.
Du coup, ça doit faire un an ou deux, quoi.
Et du coup, on est trop content de se retrouver, on est trop content de vous retrouver pour un nouveau débat de merde.
Ouais.
C'est génial. Donc la dernière fois, on s'était quitté en donnant le sujet de ce débat qu'on va faire aujourd'hui. Donc le sujet, c'était est-ce qu'il vaut mieux acheter de la marque ? Donc Jeff, on a défini ensemble avant le débat, pour nous, qu'est-ce qu'on allait considérer comme de la marque ? Je sais pas si tu te souviens, si tu veux l'expliquer.
Ah, ce que nous, on avait décidé ?
Ouais, ce que nous, on avait décidé.
Bah du coup, déjà, on a eu pas mal de problèmes sur est-ce que c'est du luxe ou pas, est-ce que c'est du haut de gamme ou pas. Et du coup, on a tranché, mais après, je pense que ça sera intéressant d'en discuter aussi, de dire que en fait, dans une série de gammes d'un produit, c'est la gamme, on va dire, 20% supérieure. Quoi.
Ouais.
Donc en termes de prix.
C'est ça. On s'était dit prix plus élevé et puis la notoriété. On considérait de la marque quelque chose qu'on pouvait croiser à la télé dans des publicités, qui rentrait en fait dans la connaissance générale du fait du marketing et des choses comme ça. Quoi.
Et encore, c'est même la notoriété. Enfin, après, quand j'ai écrit mes arguments, c'est super dur. Quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a des marques qui sont super connues mais qui sont pas chères.
Mais c'est vrai que du coup, on peut exclure les voitures du débat alors que. Parce que Renault, c'est de la marque, PSA, c'est de la marque. Et en fait, les voitures, on connaît que des marques, il n'y a pas un truc générique. Et après, c'est juste que tu vas plus ou moins dans le luxe avec Mercedes, etc.
Même, il n'y a pas d'autres produits, genre Kronenbourg pour la bière, EcoPlus pour les pâtes.
Ouais, et ça reste de la marque. C'est vrai que du coup, bon, ça a un peu réduit le débat.
Ouais.
Mais bon, on va essayer d'y aller comme ça. On a chacun préparé notre truc de notre côté.
Justement, je pense qu'il peut être intéressant au début, c'est de parler de ça en fait.
Ouais. Bah du coup, moi qui défends le oui, toi qui défends le non,
ouais.
Cette édition, on teste un nouveau format, on teste un format libre, c'est-à-dire qu'on oublie les règles, on oublie les histoires de chronométrage, de minutage, etc. On va plus être dans la discussion et être moins dans la mauvaise foi et l'engueulade, même si on s'est jamais engueulé. Et puis du coup, ça nous permet de pouvoir en discuter, comme tu dis, plus librement. Mais je te propose quand même qu'on commence un peu chacun par introduire notre sujet. Qu'est-ce que nous, on a fait chacun de notre côté? Qu'est-ce qu'on a pu trouver pour argumenter dans le sens qu'on devait défendre?
Ouais.
Toi, le non, et moi, le oui.
Ok.
Ça te dit de commencer, du coup?
Ouais. En fait, au départ, je suis allé voir tout ce qui est définition du luxe. Et en fait, c'est là où ça m'a posé des questions par rapport à ce qu'on disait. Qu'est-ce qui est le luxe? Qu'est-ce qui est le haut de gamme? Qu'est-ce que c'est de la marque? Donc, c'est pour ça que je disais que ça pouvait être intéressant d'en discuter. Ensuite, je suis allé voir, pour défendre le nom, je suis allé voir tous les produits de haut de gamme de luxe qui sont complètement obscènes. C'est obscène, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, je suis allé voir les marques. Justement, comme on en parlait tout à l'heure en off, on disait que souvent, quand on tape de marque, on tombe vite sur le textile, parce que c'est ça qui est vachement rapporté au luxe. Et je suis allé voir donc du coup ces marques-là pour voir est-ce qu'il y a vraiment une qualité derrière la marque, en fait. Et ensuite, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est la qualité? Et puis après, je suis allé voir un peu les autres domaines.
Ok. Bah moi, de mon côté, donc on en a discuté tout à l'heure, ma méthode, c'est plutôt, enfin, je pense que c'est la même pour toi, c'est une double méthode. Une première où, en fait, on fouille simplement Internet sur le sujet en regardant si des gens se sont déjà posé la question et quels arguments ils ont pu aller avancer. Et la deuxième méthode, c'est avoir des pré-arguments, en fait, avoir déjà réfléchi à des arguments et derrière aller vérifier s'ils sont vrais, s'ils sont défendables. Et donc, en fait, j'ai un peu fait ça pour défendre le oui. Dans l'idée de me dire que la marque, normalement, c'est un gage de qualité et elle se différencie des autres en proposant des fonctionnalités que les autres n'auront pas forcément. C'est les deux axes sur lesquels, en fait, je suis allé travailler pour défendre ce oui. Et de la même façon que toi, quand j'ai commencé à chercher, ça a surtout parlé du textile, alors qu'en fait, c'est dans le textile où je me disais que j'aurais le plus de mal à défendre ces deux axes-là. Et le deuxième point dont il parlait, c'était la nourriture. Alors que moi, j'avais quand même plutôt des marques industrielles en tête et vraiment d'autres types de produits, j'ai quand même pu défendre certains trucs. Du coup, je te propose qu'on y aille. Tu veux commencer un peu par dire ce que tu as pu...
On peut discuter sur la définition d'abord.
Ouais, vas-y.
Donc en fait, c'est rigolo, le luxe, je ne savais pas, c'est... La critère, il y a trois critères dans le luxe. C'est qu'il y a un ou des matériaux nobles, un savoir-faire qualitatif, et une dimension artistique unique. C'est pour ça qu'en fait, dans le luxe, tu peux retrouver des séries uniques. C'est comme ça qu'ils justifient le prix. Et ce qui était drôle, c'est qu'à la base aussi, le luxe était réservé à une partie assez haute de la population. Mais au fur et à mesure, les boîtes de luxe se sont bien rendues compte que si elles ouvraient leurs portes à l'autre partie de la population plus pauvre ou moyenne, elles augmenteraient leur chiffre d'affaires. Et en fait, donc, dans tout ce qui est textile, ça s'est vachement vu avec les accessoires. C'est-à-dire qu'une classe moyenne ou une classe basse, elle ne peut pas s'acheter un sac à main ou une robe de fashion, mais elle peut s'acheter un foulard, elle peut s'acheter un rouge à lèvres. Et en fait, j'avais un chiffre... Ouais, c'est ça. Ça représente 43% de leur chiffre d'affaires, genre pour Dior ou pour Chanel, tu vois.
Les rouges à lèvres, donc les accessoires qu'ils ont plutôt à...
Ce qu'ils appellent le luxe d'entrée de gamme, tu vois.
Avec une cible classe moyenne.
Ouais, c'est ouf, hein.
Ouais. Mais du coup, ça veut dire que toi, t'es bien parti dans le luxe.
Juste pour cette partie.
Juste pour cette partie. Parce que c'est vrai que moi, dans la définition, effectivement, en fait, le luxe, je le mettais même à part. Parce que le premier truc qui me vient en tête quand je dis est-ce qu'il faut acheter de la marque, c'est le supermarché. Et j'ai le choix entre mon poulet Lidl et mon poulet. J'allais dire Bonduelle, non. Mon poulet Le Gaulois ou Florie Michon pour le jambon ou Bonduelle, justement, pour le maïs. Et c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit parce que c'est la catégorie où, en fait, une personne peut potentiellement avoir le choix. C'est-à-dire que pour moi, le luxe, du coup, c'est pas tout le monde qui a accès. Le Bonduelle, en fait, potentiellement sur le papier, tout le monde y a accès. Je veux pas faire de scandale parce que je sais que quand il y a eu l'histoire des 5 euros sur les allocations, ça, tout le monde s'est mis à faire des paniers de courses. Et effectivement, bah, peut-être que des gens sont tellement sur un budget qu'ils n'ont pas accès au Bonduelle. Mais du coup, c'était bien ça l'image que j'avais, c'est j'arrive en réunion et j'ai le choix entre un truc générique et un truc de marque. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le truc de marque et pourquoi? C'était ça plutôt que j'avais en tête.
Du temps, en fait. Ça dépend juste du secteur sur lequel on discute.
Ouais.
Et ensuite, du coup, en fait, ça amène à la définition de la qualité, je trouve. Et du coup, moi, j'ai noté pour la qualité, tu vas me dire ce que tu en penses, les paramètres, c'est que tu as la durée de vie, la performance du produit, la beauté. Donc la beauté, ça peut être apparence, emballage et la beauté en soi. Et les matériaux qui constituent ce produit. Donc, pour de la bouffe, par exemple, tu n'auras pas la durée de vie, mais tu auras la performance, c'est-à-dire est-ce que ça te fait du bien ou pas, et quels sont les matériaux qui sont cachés ou pas, tu vois, quand on va vers les additifs.
Moi, j'aurais rajouté un critère, c'est la consistance. En fait, la consistance du produit, c'est-à-dire que, par exemple, un produit consommable, que tu retrouves toujours en fait la même composition, la même qualité à chaque fois que tu vas racheter ce produit là.
Donc c'est la cohérence interne, c'est ça? Ou la consistance?
Ouais, la consistance. Ou... Bon, et du coup, effectivement, bah, moi, mon premier argument c'était sur le gage de qualité. Et donc en fait, ce que j'ai vu, c'est souvent en fait, on attaque les marques et on dit que dans leur prix, ce qu'on paye finalement, c'est le marketing. Parce qu'effectivement, les marques, contrairement au Cassoulet Carrefour, William Sorin, ils vont faire des pubs à la télé, ils vont faire des affichages. Donc en fait, il y a un gros budget marketing et forcément, ça, c'est dépensé, c'est impacté sur le prix d'achat. Et beaucoup de détracteurs en fait, disent que du coup, dans les marques, on va retrouver un produit équivalent à de la non-marque et pourtant on va payer plus cher parce qu'on est en train de payer le marketing. Mais j'étais pas complètement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des marques qui font ça. Par contre, ce que j'ai pu trouver, c'est que par exemple dans le textile, et c'était vraiment le plus dur pour moi d'essayer de justifier d'acheter de la marque dans le textile, c'est la coupe, la taille par exemple du produit. C'est-à-dire le t-shirt qui est bien coupé, qui tombe bien au bon endroit. J'ai pu faire, là c'est l'expérience personnelle, d'aller acheter des t-shirts chez Kiabi toute mon enfance avec ma mère, tout ça. Et puis la fois où j'ai un peu pété un plomb et je suis allé m'acheter un t-shirt un peu plus de marque, c'est vrai que les coupes, les tailles, c'est beaucoup mieux. Ma mère qui est couturière, elle en fait me dit toujours quand je vais dans les magasins, ah non, ce pantalon, regarde là la coupe. Et en fait, elle a l'œil pour détecter les trucs qui vont pas. Et c'est vrai que souvent, c'est plus dans les magasins low cost où elle me dit, non, regarde, la coupe, elle va pas du tout. Et quand j'achète un pantalon, que je me fais plaisir, que j'achète un pantalon un peu de marque, là, elle va y avoir la bonne coupe qu'il faut. Donc ça, c'est un premier gage, un exemple de qualité. La nourriture, tu vas avoir le goût, la traçabilité, d'où ça vient. Et puis, d'autres industries, tu as...
La présence d'additifs aussi.
Ouais. Et tu as la durabilité et la solidité. Donc, je sais pas si tu veux... parler de ça.
De quoi, qu'on aille sur la bouffe ou...
Non, juste sur ce fait déjà que pour moi les marques en fait c'est un gage de qualité.
Ah justement ça dépend du secteur en fait, c'est ça qui est chiant quoi. Et même en bouffe c'est même pas le cas. C'est que en bouffe en fait c'est que t'as d'un côté oui d'un côté non, et du coup c'est une réponse de merde donc je vais développer. Mais par exemple tu vas chez Lidl et tu vas acheter la marque Eco Plus. Moi je l'ai déjà fait au début de ma jeune vie d'adulte où tu vois ton budget, tu vois sur le budget bouffe et tu fais comment on va faire. Et là, tu achètes les pâtes Eco Plus, tu les fais cuire et quand tu les bouffes, tu as de la farine dans la bouche. Quoi.
Ouais.
Donc tu fais Eco Plus ça marche pas, faut que j'aille taper au-dessus. Mais à côté, avec tout le marketing de la bouffe qui s'est amplifié ces dernières années avec le non-gluten, détox, bio, tout ça, tous ces trucs qui ne veulent absolument rien dire. Et avec les labels qui sont vachement achetables. Il y a une partie de la bouffe qui est considérée de marque et est considérée du haut de gamme, mais qui n'est pas plus qualitative que d'autres marques qui vont être moins chères ou moins marketées. Et c'est ça. Et, sauf qu'en plus, c'est super dur parce que dans la traçabilité des ingrédients de la bouffe, on est pris pour des cons par l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que par exemple. Si vous ne savez pas, pour le sucre, il y a une quarantaine d'appellations différentes. Pour le glutamate, il y a une quarantaine d'appellations différentes, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut cacher des ingrédients sous différentes appellations. Et de ce fait, en fait, la qualité... En fait, le problème, c'est que la qualité, c'est... On donne de l'argent à la marque contre une confiance de qualité, mais comment on fait, quoi ? Et c'est ça qui est chiant.
Comment on fait quoi ? Comment on vérifie la qualité ? Après, il y a des contrôles gouvernementaux, il y a des normes qui sont respectées. Comme tu dis, il y a les 50 noms de sucre, mais en fait, on peut se renseigner là-dessus. Après, je pense que c'est du travail, c'est relou. Mais après, tu as des associations de consommateurs, comme 60 millions de consommateurs, qui vont faire ces analyses-là, et en fait, on peut trouver de l'info. Et après, je suis d'accord, du coup, ça veut dire que tu n'as pas forcément confiance en ta marque. Mais je pense que ça, c'est juste un autre aspect de pourquoi, en fait, ça va être un gage de qualité. C'est parce que les marques, malgré tout, elles ont une image. Et souvent, on se rappelle des plus gros scandales, quoi. Volkswagen, avec leur peau d'échappement, là, trafiquée. Et en fait, dès qu'il y a un truc comme ça qui sort, ou qu'on doit rappeler de la bouffe parce qu'elle n'était pas bonne, etc., en fait, ça impacte l'image de la marque. Et derrière, les gens vont moins acheter leur truc. Donc, pour eux, ils y trouvent un intérêt, en fait, à conserver, pour moi, cette qualité, tu vois. Et à s'assurer qu'ils respectent cette qualité qu'ils sont en train de vendre aussi aux consommateurs. Quoi.
Et du coup, en fait, justement, ça pose la question, c'est est-ce que l'argent, plus c'est cher, plus on peut avoir confiance ? En fait, du coup, tu te fais pas chier, toi. T'es au cadre, tu dis, je suis au cadre, je touche plein d'argent, donc je vais acheter les marques les plus chères, comme ça, je sais que j'ai de la qualité. Or, ça marche pas comme ça. Typiquement, avec tout le bio, anti-gluten, tout ça, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça marche pas. Y a plein de marques qui sont à chier. D'un point de vue nutritif. Et ensuite, le second truc que tu disais par rapport au fait qu'il y a un scandale, donc la marque perd en réputation, c'est qu'en fait, pour un scandale découvert, il y en a 99 qui ne le sont pas. Et du coup, on ne peut pas attendre qu'il y ait un scandale pour mieux consommer. Et donc pour espérer trouver quelque chose de qualité.
Bah, en fait, je suis d'accord, mais quand on se dit qu'il vaut mieux acheter de la marque ou pas, bah, finalement, quand j'arrive au magasin Carrefour et que je prends, comme tu dis, bah, la viande Eco Plus ou que je prends la viande Le Gaulois, ou même que je prends la viande Carrefour ou que je prends la viande Le Gaulois, ça n'a rien à voir au niveau du goût. Franchement, là, pour le coup, maintenant que je cuisine beaucoup, j'ai essayé et ça n'a vraiment rien à voir au niveau du goût. Mais j'étais aussi perplexe, en fait, quand j'étais en train d'analyser tout ça, parce que je me disais, c'est vrai que finalement, les marques, comment est-ce qu'on leur fait confiance, c'est un peu chaud. Et en fait, justement, est-ce que les autres trucs, tu peux aussi leur faire confiance, en fait? Est-ce que c'est pas juste un problème de toute l'industrie agroalimentaire? Et ce qu'il disait, en fait, une étude de 60 millions de consommateurs, justement, bah, il disait qu'effectivement, les marques alimentaires, c'est équivalent, il y a pas mal de marques alimentaires où c'est équivalent au générique. Genre Carrefour, le cassoulet Carrefour équivalent au cassoulet Williams. Mais tout à l'heure, tu sais, j'ai dit, on rajoute la consistance dans la qualité. En fait, ce qu'il disait, c'est que les produits évoluent très vite. Et le truc avec Carrefour, c'est que les fabricants, les distributeurs, tous les trucs peuvent changer du jour au lendemain et c'est toujours vendu sous la même marque. Et tu sais pas, en fait. Tu sais pas que ça a changé. Alors que ta marque, tu sais que les mecs, ils ont leurs recettes, que c'est eux qui ont leurs fournisseurs, qui font leurs trucs. Ça peut évoluer aussi, mais en fait, tu le découvres plus facilement, la traçabilité est plus là, et souvent, ils vont faire des autres produits, etc. Donc, il y a plus cette consistance, en fait, apparemment, quand t'as des marques. Donc ça, c'était une étude de 60 millions de consommateurs.
Non, de toute façon, moi, je suis d'accord avec toi, que forcément, quand tu vas acheter de la viande Eco Plus et de la viande de Gaulois, là, la marque est gage de qualité entre les deux. Mais le problème, après, c'est plus... parce que ça, en fait, ça reste relativement des produits peu transformés, ou pas transformés, avec peu de concurrence. Quand tu vas au rayon viande, tu vois, t'as la viande Eco Plus, la viande de Carrefour, Casino, Franprix, et la viande Le Gaulois. Et c'est plus, justement, quand tu vas sur d'autres produits, bah, genre typiquement, tu vas dans les biscuits, et là, tu vas avoir pareil. Donc, tu vas avoir la viande du magasin, biscuit du magasin, le biscuit bas de gamme, mais déjà dans le biscuit bas de gamme et biscuit milieu de gamme, t'as pas mal de trucs, et ensuite dans le biscuit haut de gamme avec tout ce qui est bio et tout ça, là t'as encore plein de choix, et donc les choix se multiplient, et la qualité elle est pas forcément là où on pense.
Mais c'est...
Parce que ça reste un produit pour transformer, en fait.
Et en fait, c'est vrai que là, et en plus sur l'alimentation, comme tu disais, je suis quand même plutôt d'accord avec toi qu'il y a pas mal de parts sombres, où on ne sait pas trop finalement ce que les mecs font et à quel point on peut leur faire confiance. Et pour moi, c'est vraiment tenant de toute l'industrie agroalimentaire. Et justement, en fait, j'ai regardé sur ça et il disait qu'aujourd'hui, tu as 77% des Français qui préfèrent avoir une marque qui est complète transparence, en fait, sur ce qu'ils font, mais qu'il y en a seulement un quart qui se disent que les boîtes, elles sont honnêtes. Et en fait, on est en plus dans un peu une descente, puisque les médias se sont pas mal accaparés des sujets, de la polémique, etc. Alors, j'accuse pas du tout les médias, mais tu vois...
Si, on peut les accuser.
Tu vois, t'as les trucs comme Cache Investigation, en fait, qui lancent des débats quand même, parce qu'ils mettent à jour des trucs. Mais finalement, en fait, ça fait que aujourd'hui, même les scientifiques, on les écoute moins. C'est trop marrant le parallèle que tu peux faire avec d'autres sujets. On les écoute moins, les scientifiques et les experts, parce qu'en fait, à chaque fois, on pense que c'est des lobbies qui les payent, quoi. Et finalement, du coup, on est en train de se créer encore ce flou artistique qu'on peut retrouver sur d'autres sujets comme le global warming, où il y a plein de gens qui sont sceptiques parce qu'on ne sait plus faire confiance aux scientifiques, parce qu'on ne sait pas qui paye qui pour nous manipuler. En fait, c'était marrant de se dire que autour de l'agroalimentaire, bah, t'as ces mêmes sujets-là. Bon, c'est ce que j'avais vu.
Justement, du coup, ce qui est marrant, tu vois, c'est là, on a discuté de la bouffe, je ne sais pas si tu veux en parler davantage, mais en fait, du coup, on a vu que, en fait, en gros, pour la qualité, on est prêt à payer cher. Mais du coup, c'est à combien on autorise cette marge de bénéfice par la boîte qu'on paye. Et du coup, en fait, ça va dépendre, un, du produit ou du service, et deux, le premier mec qui arrive sur le marché, où est-ce qu'il fixe le prix?
Oui.
Tu vois? Genre, en fait, en bouffe, c'est assez peu variable. On sait qu'un poulet, ça va coûter ça. On sait qu'un biscuit, ça va coûter ça. On sait qu'un des haricots, ça va coûter ça, ainsi de suite. Et on va accepter une marge plus ou moins haute par rapport à ça. Mais il y a d'autres trucs où le haut de gamme, ça peut tripler, quintupler, sextupler par rapport à la valeur de base. Par exemple, on va dire les vélos, l'équipement sportif, l'équipement d'ordinateur, enfin, tous ces domaines-là où il y a tout de suite un...
Bah, en fait, le problème là-dedans, c'est qu'il faudrait qu'on soit capable d'analyser à chaque fois, de décortiquer le prix. Parce que, par contre, moi, c'est des choses que je peux comprendre en termes de, comme tu disais, bah, selon le matériel utilisé, selon la méthode de fabrication. Rien que si tu le fais en Europe, si tu le fais à l'étranger, si tu le fais faire par des artisans qui bossent à la mano, qui s'assurent, ou si tu le fais faire à la chaîne, bah, tout ça, ça fait vachement fluctuer ton prix. Et du coup, je peux comprendre que des fois, finalement, ça te crée une grosse différence. Mais moi, j'avais pas mal d'exemples, en fait, parce que justement, c'est marrant, ça m'amène plutôt vers le second argument vers lequel j'avais un peu orienté ma recherche, c'était sur les fonctionnalités et la valeur ajoutée de ton produit de marque.
Ouais.
Les marques, c'est aussi, les grosses marques, c'est aussi ben, des brevets de la recherche que font pas forcément ben, les trucs génériques, ils vont pas investir dans de la recherche pour développer... des nouveautés, des fonctionnalités uniques. Et en fait, j'avais bossé chez Velux, je ne sais pas si tu te souviens. Et par exemple, chez Velux, j'avais vu que le système de fermeture et ouverture de la fenêtre, c'est un brevet, il n'y a que Velux qui le possède. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les fenêtres de toit, on appelle ça des Velux, mais en fait, Velux, c'est une marque. Et t'as d'autres marques de fenêtres de toit en Europe, mais les mecs, ils ont que dalle du marché. Mais parce que Velux a ce brevet-là qui lui permet... Et en fait, les mecs ne se sont pas arrêtés là. Ils innovent en permanence. Ils ont 1600 brevets actifs. Ils ont investi 200 millions d'euros en recherche et développement pour développer leur dernière génération de fenêtres. Sur un chiffre d'affaires annuel de 2,2 milliards, ça fait 10% de l'argent qui rentre, qui est réinvesti dans de la recherche. Et du coup, je pense que ça aussi, tu vois, on le retrouve... dans le prix, et je pense que parfois les gens ils ont un peu de tendance à oublier qu'il y a tout cet effort qui est fait derrière. Et après, j'avais d'autres exemples. Ben, tu as L'Oréal, ils ont plus de 19 centres de recherche partout dans le monde. Les mecs ils posent 500 brevets par an à travers le monde. Ils développent 3000 nouvelles formules chimiques par an. Tu vois, les mecs ils recherchent beaucoup. Et pareil, tu vois, la dernière fois quand j'ai acheté mon Dyson. Parce que j'étais trop fan. Tu m'as dit, ouais, t'es un petit bourgeois. Mais c'est vrai, putain, c'est un achat de bourgeois. Mais entre aujourd'hui, où je prends mon Dyson pour faire le ménage et mon vieil aspirateur qu'on peut observer là-bas à l'autre bout, où c'était l'enfer, le truc, au bout d'un an, il aspirait plus rien. En fait, je dis, putain, c'est clair, je l'ai payé 329 balles, le truc. Mais il n'y a pas photo, quoi. Aujourd'hui, la différence, bah, je suis content de les avoir foutus, mes 329 balles. Et ça, c'était quelques exemples où je me suis dit, bah, finalement... Effectivement, ça revient toujours à une question de moyens. Est-ce que tu as les moyens de te faire cet achat plaisir, enfin plaisir, pour faire le ménage, mais voilà, d'aller mettre 329 balles dans un putain d'aspirateur, bah, pas forcément tout le monde. Mais là, sur ce coup-là, tu vois, pour moi, ça vaut le coup d'acheter de la marque, et le prix est justifié parce que les mecs, ils investissent comme des porcs dans la recherche pour aller sortir des produits qui sont vraiment plus efficaces que les autres.
Mais là, quand je t'avais dit que t'étais un bourgeois sur le coup, c'était vraiment pour emmerder Babou.
Mais, oui, non, mais je sais.
Mais je suis d'accord avec lui parce que je pense vraiment qu'en l'occurrence, un bon aspirateur, ça vaut le coup. Quand t'as ton chez toi qui fait le ménage, on sait qu'un aspirateur de merde, c'est l'horreur. Mais du coup, en l'occurrence, déjà je comprends pas moi le prix des aspirateurs. Quoi. Je comprends pas comment une pièce technologique qui a pas l'air folle monte aussi cher, quoi. Justement, ça, c'est un truc que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien me pencher un jour, quoi. Mais bref. Et du coup, toi, il y a les aspirateurs où tu dis, bon, là, je vois que le bas de gamme, c'est infâme. Et le haut de gamme, tout de suite, il y a un bon de confort. Et toi, par exemple, il n'y a pas longtemps, donc je me suis acheté une chaise, là, parce que mon ancienne chaise a claqué. Et là, quand tu regardes les comparatifs sur Internet, t'as tous les enculés qui vont dire, oui, cette chaise, c'est la meilleure. En fait, le mec, il fout des liens Amazon derrière... c'est les mêmes chaises qui reviennent parce que bah, c'est les mêmes marques qui ont fait des partenariats avec les sites ou les youtubeurs pour se mettre en avant. Et du coup, en fait, c'est pas la qualité qui ressort, c'est juste celui qui a mis le plus gros plan marketing, quoi. Et c'est une horreur pour dire comment je fais pour savoir quelle chaise est la plus qualitative. Et t'as aucune arme, t'as rien.
Bah, en fait, et je sais pas, du coup, maintenant que tu me dis ça, ça me met le doute, faudrait que je vérifie. Mais moi, mon site, pour ça, c'est les numériques, quoi. Parce que les numériques, ils balancent des tests avec des mesures, des tests appareillés de l'autonomie, du bordel, de la puissance de kilowatts. Les mecs, ils font vraiment des tests détaillés. Alors, peut-être que c'est que du charabia scientifique qui nous balance à la tête pour nous faire croire, pour nous faire gober le truc. Et finalement, derrière, c'est des lobbies qui payent. Ou bah, sinon, les mecs, ils sont vraiment conscients, ils font le truc. Moi, en tout cas, c'est vrai que je me pose beaucoup sur les numériques. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont souvent en fait plusieurs catégories, genre le haut de gamme. Le truc où je regarde tout le temps, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et les mecs, ils te testent tout. Et pour moi, en fait, c'est un peu ma source d'information maintenant, dès que je vais acheter un truc.
Mais je suis d'accord avec toi, mais sauf que ça ne marche pas pour tous les produits. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Enfin, je suis comme toi, hein, les numériques, ils ont un gros degré de confiance pour moi. Toi. Mmh. J'ai vachement confiance en eux. Mais déjà, ils ne sont pas performants dans tous les produits. Tu vois, ces dernières années, il y a plusieurs fois où je suis allé sur le site et il y avait trois trucs qui se battaient en duel pour l'objet que je cherchais. Et en l'occurrence, pour les chaises, il n'y avait pas. Tu vois. Et pareil, tu vois, dans mon milieu à moi, donc dans le milieu sportif, sur les outils sportifs, tu n'as pas les fitnessers ou ouais. Les sportifs sur le matériel. Et du coup, quand tu vas acheter du matériel, c'est au doigt mouillé. Quoi. Et c'est là, en fait, on voit que il y a des boîtes qui vont galvauder ce principe de qualité égale prix en disant bah nous, on va faire croire qu'on est de la haute qualité, on va mettre un tarot super haut, comme ça les gens ils vont croire que c'est de la qualité. Bah non. Et en fait, et du coup, ça tu retrouves même dans du service. Par exemple, toi, dans du coaching sportif, un mec qui se vend 20 balles, tu vas dire bon, bah c'est un tocard en coaching sportif, 20 balles de l'heure. Et un mec qui se vend 150 euros de l'heure, tu vas dire oh putain, il doit être trop fort tout ça. Alors que ça se trouve, il y a juste lui qui a fixé son prix, tu vois.
Ouais.
Et du coup, comment tu sais?
Ben non, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que ben, du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est sur ce débat, ça dépend de... En fait, à chaque fois, il faut le resserrer à une industrie particulière, quoi. Pour pouvoir aller regarder dans cette industrie particulière les prix, comment ils sont construits, quels sont les différents acteurs, et puis vraiment tester leurs produits, quoi.
C'est ça. Et aussi, ce qui nous amène, du coup, aux reviews. Amazon, Google, les trucs plus indépendants comme les numériques... Des passionnés qui ont leur petit blog, leur chaîne de vidéos ou autre. Mais sauf que même ça a été galvaudé, en fait. C'est qu'il y a des boîtes, bah, elles manipulent ces reviews en payant un tas de Pakistanais qui vont rentrer 200 à l'heure ou ils vont payer des YouTubers qui sont censés être indépendants à la base. Et donc, personnellement, moi, j'essaye toujours de me fier à ça, mais c'est dur, je trouve, parce qu'il y a plein de fois, tu vois, ok, hein, c'est mort, quoi. Le truc, il est bidon.
Non, mais c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est ça qui est dur, c'est qu'on, finalement, tu vois ce que je disais tout à l'heure sur on fait plus confiance, c'est vrai qu'en fait, on en est là, quoi, et on fait plus confiance, et on est incapable de, finalement, de vraiment faire un vrai choix sans tester les trucs, quoi.
C'est ça.
Mais du coup, je pense qu'on a pris résolu à ce débat, parce qu'en gros, ce qu'on se dit, c'est que des fois, ça vaut le coup, des fois, ça vaut pas le coup, et ce qu'il faut, c'est faire... une analyse consciente du bordel, si personne ne l'a déjà fait. Mais je sais pas, t'as essayé de regarder sur ces syndicats-là, je sais pas si c'est des syndicats, mais 60 millions de consommateurs, ces trucs-là, ils avaient déjà regardé les produits, justement, que t'as pas...
Non, justement, j'aurais dû y aller, j'y ai pas pensé. Mais du coup, aussi, ce qui m'interroge, tu vois, c'est... Autant pour la bouffe, tu vois, c'est relativement facile, entre guillemets, de savoir si c'est qualité ou pas. Tu testes, tu bouffes, tu vas tester 5 fois, ça va te coûter un budget abordable.
Ouais.
Mais quand tu t'achètes une chaise, non. Tu vas pas t'en racheter une autre. Quand tu t'achètes un aspi, tu vas pas t'en racheter une autre, quoi. Bah, t'es vénère après, tu vois, t'es là, putain, je me suis fait avoir. Et...
Bah, j'avoue que c'est vrai, mais après la chaise, et il y a ce truc qu'on fait plus trop, mais on peut aller à la zone industrielle dans le magasin de chaises et tester les différentes chaises, quoi.
C'est vrai.
Après l'aspi, je suis d'accord que tu vas pas le tester dans le magasin.
Non, mais même la chaise, si tu la testes, tu sais pas, parce que le problème, la chaise, tu sais, c'est toutes les chaises aujourd'hui, là, des chaises de bureau. Le problème, c'est un vérin au début, là, c'est un vérin qu'on met quand on fixe le siège. Déjà, souvent, elles sont pas chères parce que c'est nous qui les montons. Donc ça, c'est souvent compris dans aussi ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est que les industriels, ils peuvent faire baisser. Donc c'est comme ça que IKEA, il a fait sa notoriété, c'est en nous faisant monter les meubles. Comme ça, il y a pas l'assemblage. Bref, et le problème des chaises aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup de vérin, et donc la petite tige orange, tu l'as vu ou pas quand tu l'as montée?
Moi, je l'ai pas, ça me dit rien. Mais
bref, donc, et du coup, ce vérin, il est c'est souvent la pièce qui pète le plus. Moi, sur, moi, j'en suis à ma quatrième chaise, là, les trois chaises qui ont pété, à chaque fois, c'est le vérin qui finit par péter. Du coup, l'assise, elle va à droite, à gauche ou en avant-arrière.
Ouais.
Et du coup, comment je sais quel vérin va être de bonne qualité, tu vois?
Ouais. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a un aspect que tu ne peux pas tester, c'est la durabilité du truc.
Exactement. Et, bah, et c'est pour ça que tu achètes une chaise.
Ouais. Et c'est là où, en fait, c'est dingue, parce que du coup, quand il s'agit de durabilité, bah, je vais aller vers les produits que je connais. Et les produits que je connais, bah, c'est les produits qui m'ont marketé des trucs ou que j'ai déjà eu. Bon, bah, là, c'est du coup, c'est un meilleur cas. Mais c'est vrai que du coup, bah, tu vas aller vers la marque parce que tu as vu à la télé que ce truc-là, ouais, ils t'ont dit que c'était solide. Bah, peut-être que tu vas y aller parce que tu fais confiance, quoi. Que le mec, il t'a dit que c'est solide, c'est pas ça à la télé, mon Dieu. Ouais, voilà. Ouais, c'est... Du coup, je pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Je sais pas si tu avais encore d'autres choses.
Non, parce qu'après, le reste, c'était sur le luxe. C'est pas forcément lié au débat, en fait. C'était plus sur le fait que. En fait, ce qui est rigolo avec le luxe, c'est clairement pas de la qualité. C'est juste démarquer socialement des autres et de dire, regardez, moi j'ai de la thune et vous, vous en avez pas, quoi.
Bah, et sur cet aspect, tu vois, là, en deux secondes, vraiment, je suis assez d'accord avec toi parce que quand je réfléchis à des gros produits de luxe, une montre Rolex, des gros bijoux, une Rolls-Royce, bah, en fait, c'est des belles voitures, c'est des belles montres, mais en fonctionnalité unique ou de trucs que ça rajoute. Que tu peux faire des choses avec ces objets-là que tu peux pas faire avec des objets de même type mais qui ne sont pas de luxe, ben effectivement en fait je pense que ça apporte rien à part juste ce côté j'ai de la thune quoi, enfin je
c'est
sais ça. Pas
hein. c'est juste une distinction, c'est juste un objet de distinction sociale, tu vois. Bah, là j'en ai des exemples, donc il y a des Prada qui avait lancé des trombones à 185 $, Balenciaga qui avait lancé un sac le même que celui d'IKEA à 2145 $, 4 balles de tennis de Chanel à 275 €. Aussi, après, je suis allé sur Chanel pour voir les prix. Donc, short, c'est 4000 balles. Veste, 12000 balles. Ballerine, 900 balles. Et aussi, il y avait un truc que j'avais partagé qui m'avait bien fait marrer, moi, en tant que coach sportif. C'était Louis Vuitton qui avait lancé ses haltères à 1800 €.
Ouais, ça, j'avais...
À 3 kilos, alors que chez Decathlon, c'est 10 balles.
Mais là, c'est clairement des produits... je suis d'accord avec toi. Là, c'est clairement des produits où, en fait, tu te dis, bon, c'est abusé. Après, à part si le short, il est fait... en soie qui est ramassée sur la larve de verre, je sais pas quoi, l'ancienne technique chinoise millénaire. Mais même là, c'est peut-être un peu trop abusé comme prix. 4000 balles, c'est un peu du foutage de gueule. Après, je pense que c'est quand même quelque chose qui s'analyse, parce que je me demande si finalement, dans les produits de luxe, t'as pas quand même des trucs... Tout à l'heure, j'ai cité Rolls-Royce, je sais pas si la Rolls, elle a pas des trucs de malade, tu vois, qui ferait que son prix est justifié, mais... C'est quand même dur à défendre. Mais je pense que c'est un...
Moi, je pense que c'est indéfendable. En fait, la marge, elle est trop haute.
Ben, je sais pas c'est quoi la marge. C'est ça, le problème. Parce que si la Rolls, le mec, il a fait la porte en diamant, peut-être qu'il se fait pas énormément de marge.
Ouais, oui, ok. Et... Genre, pour l'alter, c'est impossible, tu vois. L'alter, c'est de la fonte.
Ouais, donc, non.
Sauf si t'allais buter Wolverine et t'as pris la Damantium, tu vois. T'as l'alter, sinon...
Non, mais je suis d'accord. Bah du coup ça sera un autre débat peut-être intéressant à regarder, ouais. Quoi, mais avec des analyses, il nous faudrait les outils pour analyser.
Mais ouais, c'est ça qui m'a frustré sur cette question, j'ai trouvé ça trop dur, quoi. D'apporter une réponse définitive, peut-être pas, mais au moins argumentée, plus je cherchais, plus j'étais perdu.
Ouais, bah c'est comme tu dis, c'est en fait, dès que tu vas dans l'alimentaire, il y a une règle qui s'applique. Et même pas, hein, vas dans le maïs, il y a un truc qui s'applique, tu vas dans la viande, il y a un autre truc qui s'applique, tu vas dans les aspirateurs, tu as encore une autre règle qui s'applique, et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de réponse catégorique. Mais un peu comme tous les débats qu'on a eus, hein, finalement, il n'y a jamais eu de réponse, à part, je ne sais pas, peut-être, qu'est-ce qu'on a fait.
Ah si, il y en avait. Ah si, celui sur est-ce que les femmes peuvent aller draguer, moi, je suis convaincu, là, j'étais convaincu de mon bord.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même dans les femmes peuvent aller draguer, il y a un entre-deux.
Oh mais là...
Les hommes, c'est pas que les femmes qui doivent aller draguer, c'est les hommes non. Et les femmes.
Non mais
tu vois ce que je veux dire.
Mais sur la construction de mon argumentaire, en tout cas, j'étais plus convaincu. Alors que là, je suis arrivé, j'étais là, j'avais limite honte du texte que j'avais écrit. Quoi.
Ok, bon, je te propose, on s'arrête là.
On s'arrête là.
Très bien, bon, on vous remercie. Laissez-nous
vos avis, vos commentaires.
Voilà, vos avis, vos commentaires pour nous dire aussi ce que vous pensez de ce nouveau format. ce que vous pensez des numériques. Moi, je suis intéressé. Et si vous avez d'autres sites comme ça qui vous permettent de consulter des avis ou des tests avant de faire vos achats.
Là, des gages de confiance, ouais.
Ouais. Bon, on va décider du prochain sujet de débat.
Yes.
C'est parti. Ok, donc on a choisi le prochain sujet. Le prochain sujet est un peu plus solide.
Ce sera plus facile de trouver des arguments et de débattre.
Ouais. Ouais, mais je pense aussi qu'on va passer peut-être un peu plus de temps à le préparer parce que celui-là est peut-être plus proche des intérêts personnels. Bon, bref.
C'est vrai.
On va tout de suite annoncer le sujet. Je t'en prie déjà, vas-y.
Est-ce qu'il faut autoriser la compétition avec dopage?
Super sujet, je pense. Et on va sûrement se faire attaquer par les spécialistes, je sais pas.
Non.
Donc maintenant, on va tirer au sort pour savoir qui défend le oui, c'est qui ça. Défend le non.
Du coup, c'est à moi, je crois.
Ouais, c'est à toi.
Vas-y.
C'est parti. C'était pas équilibré. Donc, pour vous sachiez ce qui s'est passé, on s'est foiré sur la roulette et du coup, ça a atterri sur un espace vide.
Ça, et le sol sur genre 24, quoi.
Donc, on recommence. C'est parti. 1, 2, 3. Et tu défends non. Le non.
Donc, non. Il faut pas qu'il y ait dopage. Donc, toi, tu devras défendre la compétition avec dopage et ouais. Moi, je devrais défendre la compétition saine.
C'est ça. Bah, défendre le fait qu'il faut pas qu'il y ait de compétition avec dopage.
C'est ça, ouais.
Ouais. Ça, on va voir comment ça va se passer. Ça, je pense que ça va être intéressant.
Du coup, c'est ça, c'est oui. Est-ce qu'on autorise les compétitions avec dopage ou pas, quoi, en fait?
Ouais, c'est ça. Hein. Une autre ligue, on peut imaginer, tu vois. Ouais. Une autre ligue totale, t'en as une sans dopage, une avec dopage.
Ce qui est différent d'autoriser le dopage dans les compétitions actuelles.
Ouais. Ouais.
Okay.
Le sujet, c'était vraiment, quand on l'avait imaginé, c'est une ligue à part où t'as le dopage.
Ok, d'accord. Très bien.
Ok, merci à tous. Salut.
Des bisous. Ciao.
Bisous, ciao.